Sur plusieurs sujets. C'est juste pour un petit peu montrer à la fois, voilà, c'est l'aspect un petit peu connaissance de la consommation en général, et le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure, c'est simplement pour montrer nos propres contradictions internes, mais je vais y revenir. Alors, toute petite histoire de la consommation, Vincent pourrait en faire sûrement 2 heures, mais c'est juste pour vous expliquer qu'en fait ce terme-là, d'abord vient du latin consumare, qui veut dire accomplir, mener à son terme, à son achèvement. La consommation, c'est la fin. Et pendant très très longtemps, en fait, on a mélangé consumer et consommer. Et ce qui est intéressant, dans la présentation après, c'est qu'effectivement, en consommant, on consomme aussi les réserves de la planète, puisqu'on utilise des matières premières pour fabriquer des produits. Cette confusion sémantique a duré à peu près jusqu'au XVIIe siècle. Là, le terme de consommer s'est plutôt spécialisé, on va dire, dans le domaine économique. C'est à partir à peu près du XVIIe que c'est vraiment devenu un terme associé à l'économique. Hein. Sachant qu'il y a d'autres types de consommation, hein, on consomme le mariage, hein, et ça n'a rien d'économique. Donc il y a d'autres expressions qui sont restées, mais si on dit aux gens sur le trottoir pour les consommations, ils vont penser à l'achat et à l'économie. C'est bien, on a des oiseaux qui. Et puis, un petit peu gros changement sémantique, c'est que de la fin, la consommation de l'acte final, ça devient la satisfaction d'un besoin. C'est-à-dire que, on a besoin de consommer, d'acheter ceci, de prendre cela. C'est finalement pas la fin en soi, c'est pour alimenter quelque chose. Et puis le terme de société de consommation est apparu officiellement dans les documents plutôt vers 1945, mais en fait elle a commencé vraiment à devenir en tant que telle à la sortie de la pauvreté, hein, qui est le symbole de la consommation de masse, puisque la pauvreté c'était une voiture pour tous les Américains. Il y a un qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est l'équipe des jeux, qui a estimé qu'il y avait 4 éléments constitutifs du développement de la consommation. C'est d'une part la voiture populaire et bon marché, c'est la pauvreté. Donc là, vous avez quelques chiffres. En 1963, il y avait 35% des Français qui possédaient une voiture. 40 ans après, c'est 80% des Français qui ont au moins une voiture. Et 31% qui en ont au moins deux. L'autre élément constitutif du développement de la consommation, suivant les jeux, c'est la civilisation des loisirs. Tout ce développement des loisirs, notamment après la Seconde Guerre mondiale, fait que ça entraîne effectivement des produits, des services, des disques, des livres, des cinémas, des parcs d'attractions, etc. etc. Également, le développement du logement urbain de masse et son corollaire, son équipement, et en particulier son équipement en électroménager, avec la chaîne d'électricité. Et là, vous avez quelques chiffres à 50 ans d'écart. Donc, le développement des aspirateurs, des réfrigérateurs ou des machines à laver. Sur les deux derniers, on est quasiment à la totalité des foyers équipés en réfrigérateur et en machine à laver. Certains vont avoir 2 réfrigérateurs, et on n'a pas mis les congélateurs. Et en fait, tout ça a aussi développé la consommation d'électricité partout dans le monde, des ordinateurs qui sont là également. Et puis, le quatrième point symptomatique de l'évolution de cette société de la consommation, c'est le développement des grandes surfaces, qui est très prégnant en France, un peu moins dans d'autres pays, mais très prégnant en France, et bien sûr, le symbole, c'est le premier centre de terre à Landerneau en 1949. C'est vraiment le premier centre commercial important de masse, bien sûr, depuis, ça s'est énormément développé. Alors, cette consommation n'est pas sans conséquence et sans impact sur l'environnement. Alors, quelques points, peut-être qu'il y a un ou deux graphiques que vous allez retrouver qui ont été présentés hier par certaines audiences qui étaient là. Ici, je vous passe les détails, ce sont les différentes hypothèses de réserve de pétrole. Là, je vous passe les différentes hypothèses, peu importe. On part de 1950 et on s'arrête ici à 2300. Ce que l'on remarque, c'est que le pic de production s'étale entre 2010 et 2040 en fonction des hypothèses. Voilà. C'est ce qu'on appelle le pic oil dans le jargon technique. Donc, on n'est pas loin finalement en fonction des hypothèses 2010-2040. Si on regarde les réserves uraniennes, puisque nous, en France, on a cette particularité de produire énormément d'électricité à base d'uranium, eh bien, pareil, il y a eu l'Agence internationale de l'énergie a fait quelques hypothèses, je vous passe également les hypothèses, et en gros, on est en pic de production d'uranium entre 2015 et 2035 à peu près. Alors évidemment, ce sont des hypothèses, demain, il peut s'apercevoir qu'il y a des chiffres faux, ce ne sera peut-être pas 2040, ça peut être 2050, 2100, mais peu importe, il y a de toute façon un pic de production. On pourrait prendre tous les métaux, le plomb, le cuivre, la bauxite, etc., et on peut aujourd'hui tracer des courbes qui se situent suivant les endroits autour de 2050-2040. La consommation, c'est les gaz à effet de serre, ça c'est peut-être un graphique que je vais vous montrer, je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez ici la concentration en gaz à effet de serre depuis les 400 000 dernières années, donc qui évolue de façon assez cyclique. Voilà, ça c'est donc le point le plus haut historiquement, qui était à 300 mg, ppm, voilà, parti par million. Aujourd'hui, on est à peu près à quelque chose comme 380 au niveau mondial, et il y a diverses hypothèses qui sont faites, et la plus pessimiste serait qu'en 2100, on atteindrait plus les 700 ppm. Sachant qu'on estime aujourd'hui le seuil, on va dire, de danger pour la planète à 400. Donc on voit que sur les 400 000 ans, en fait, l'essentiel s'est fait sur les 100-150 dernières années. Parallèlement, il y a la population mondiale aussi qui évolue, ce qui montre aussi que les conditions de vie se sont améliorées, ce qui est plutôt sympathique. Donc là, vous avez un tracé, c'est pareil, en fait, là on est sur 10 000 ans, et on s'aperçoit qu'il y a eu une augmentation absolument phénoménale depuis 200 ans, et c'est pas fini puisque les projections de l'ONU montrent une évolution jusqu'à environ 10 milliards d'habitants à partir de. Entre 2050 et 2100 à peu près, et vous voyez que c'est essentiellement dans les pays en développement, alors que les pays dits développés, eux, seraient à peu près ça. Donc on a déjà à 5-6 milliards, on crée pas mal d'impact sur l'environnement, mais si on est 10 milliards en plus avec le souhait logique de pouvoir évoluer, on n'est pas dans le cas. Avec des inégalités mondiales, puisque c'est la règle des 80-20 à peu près assez classique, vous avez 20% de la population qui perçoit 85% des revenus, qui consomme 75% de l'énergie produite, qui consomme 80% des autres ressources, tout ce qui est le minerai notamment, et qui génère 75% des pollutions. On est vraiment dans la règle des 80-20, c'est finalement assez facile à retrouver. À côté de la consommation des gaz à effet de serre, il y a des effets sur la température globale de la planète. Et là aussi, on a eu une augmentation très forte dans les 100 dernières années, plus forte et beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu vivre au cours des 1000 dernières années. Il y a diverses projections qui sont faites. Donc en gros, on peut des augmentations entre 1,6 et 5 degrés supplémentaires. Là aussi, il va falloir faire quelque chose parce qu'on voit bien que si on continue comme ça, on va avoir énormément de problèmes. Alors, pour limiter ces impacts sur l'environnement, il faut bien avoir conscience de ce qu'est la chaîne de production et d'achat. Nous, on voit que l'achat, on achète le produit, le service, mais en fait, il y a un avant et il y a un après. Donc ça commence par les comportements. Ensuite, vous avez des entreprises qui, voyant ces comportements, vont imaginer des produits et des services. Ensuite, on va le fabriquer, on va le transporter, on va le mettre en vente, on va l'acheter, on va consommer et ensuite on va jeter, c'est ce qu'on appelle la fin de vie. Et puis bien sûr, l'achat, c'est un acte de comportement, donc suivant la façon dont on achète, l'industriel regarde comment on se comporte à l'achat, et en fonction de ce comportement, lui-même va éventuellement modifier ses produits, ses services, voire créer d'autres choses. Alors en fait, le comportement, c'est quoi? C'est la composition des ménages. C'est évident que si on passe de ménages moyens de 4-5 personnes à des ménages où il y a plutôt 2 personnes, évidemment, la façon d'acheter et de consommer ne va pas être la même. L'âge, on ne consomme pas à 60 ans ce qu'on consomme à 20 ans. Le temps de loisir, puis on va avoir le temps de loisir qu'on va consommer du loisir, etc. Le contexte social, on n'achète pas de la même façon si on est riche ou pauvre. Ensuite, l'industriel, il va concevoir, donc il va regarder l'usage, regarder les problèmes de transport, la disponibilité des composants. Ça peut être bien génial d'inventer quelque chose, mais si on n'a pas le minerai qu'il faut au prix abordable, on ne pourra pas le faire, par exemple. Des problèmes de coût, de marketing, la population cible, je fais un produit pour quelle population, etc. L'aspect réglementaire. Donc on fabrique en fonction des technologies qui existent, ou qu'il faut inventer, en fonction de son savoir-faire, des problèmes d'approvisionnement, de stock, de logistique, la commercialisation, etc., tous ces aspects-là. On achète pourquoi? Parce que c'est le prix qui nous intéresse, parce que c'est l'usage qui nous intéresse, parce que ça porte au moins une image sociale. J'achète une belle bagnole parce que je montre que j'ai réussi. La rareté aussi. J'achète parce qu'il y en a peu sur le marché. C'est Nike qui dit je sors 10 000 paires de chaussures machin à travers le monde et on veut être absolument dans les 10 000 à travers le monde qui vont avoir ces paires de chaussures. En consomme, la consommation elle peut être complète ou pas. C'est-à-dire que je veux une boîte de conserve, je consomme la moitié et voilà, je veux le jeter. Elle peut être réalisée ou pas, j'achète beaucoup de fruits qui arrivent au bout de 4-5 jours, elle est en kiffé, mes fruits sont pourris, je vais les jeter. Voilà. Et puis en fin de vie, je vais jeter, est-ce que je vais trier, est-ce que je vais pas trier, est-ce que je vais mettre au bon endroit, est-ce qu'il y a des filières, est-ce qu'il y a un impact. Donc ça, c'est globalement, les gens qui font des écoles de commerce, ils mettent 300 francs pour tout ça, donc c'est vraiment du blabla juste pour. Mais en fait, c'est générateur de résilience. Alors on le sait, c'est générateur de résilience lorsqu'on jette, ce qu'on appelle la fin de vie. Dans les boîtes de conserve, je sais que si je jette ma boîte de conserve, le déchet, il va falloir le traiter, etc. Si je n'utilise pas, enfin, si je mets ma voiture à la casse, comment elle va être démontée, comment elle va être détruite, comment elle va être réutilisée, les piles, etc. Tout ça, on connaît. Mais il y a d'autres impacts, à d'autres endroits. Par exemple, entre l'achat et la consommation, je mets des produits au réfrigérateur, le réfrigérateur consomme de l'électricité, l'électricité étant fabriquée à partir de l'uranium, je consomme la plupart de l'uranium, ou du gaz, ou du fioul, ou autre. Mais pendant la consommation, par exemple, j'utilise ma voiture. Quand j'utilise ma voiture, je rejette des gaz d'échappement, je rejette du CO2, donc je pollue, par exemple. Et puis il y en a d'autres, qui est avant. Avant, lui, il a été transporté entre l'endroit où il a été fabriqué et l'endroit où on le vend. Le transport, c'est de la pollution. Il a été fabriqué dans une usine. Cette usine, elle rejette de l'eau. Cette usine, elle fait du bruit. Cette usine, elle rejette des déchets, etc. Et donc, il y a eu des pollutions qui ont été générées par cette fabrication. Il y en a eu même avant l'usine, puisqu'on a fait de l'extraction de matériaux, par exemple. Donc, on a dégradé un site ou un paysage. C'est l'agriculture, si elle utilise des produits phytosanitaires, retrouvant des polluants, elle va en créer aussi des pollutions, etc. Donc, toute cette chaîne-là de consommation est génératrice de nuisance avant, pendant et après. Donc l'acte d'achat d'un produit ou de service n'est absolument pas anodin sur le plan environnemental. On n'a pas forcément conscience de tout ça, on a conscience surtout de cet aspect-là. C'est-à-dire quand je jette, Et ceux qui en ont encore plus conscience, quand on leur dit, vous savez, demain, on va vous mettre un accélérateur ou une décharge à côté de chez vous. Et là, donc on a souvent conscience de ça, de la paix, et rarement même dépendant, et encore moins de colère. Comment on a essayé de pallier ces inconvénients? Bien, en fait, il y a eu des stades, de façon historique. Je vais très vite dans l'histoire du traitement des pollutions, mais ce n'est pas l'objet. On a d'abord commencé à, justement, à traiter les pollutions. On s'est dit, bah, tiens, il y a un panache de fumée, tiens, on rejette de l'eau, et bien, on va traiter cette fumée, on va traiter cette eau, on va traiter ces déchets, et donc on a imposé des normes. De rejet pour les eaux, pour les fumées, pour les déchets, etc. Donc on a fait du traitement de pollution et ça, ça a été la première chose qui a été faite, hein, jusque dans les années 70-80 à peu près. On y a rajouté de la fiscalité. J'y reviendrai un petit peu, mais par exemple, pour savoir que depuis le début des années 90, en France, d'ailleurs dans la plupart des pays européens, les installations de traitement de déchets, quelles qu'elles soient, déchets dangereux ou pas, des charges, des incinérateurs, etc., paient une taxe à la tonne reçue, à l'État. Voilà. Et pourquoi on a fait ça? Ben, c'était pour, notamment à l'époque, augmenter le coût des traitements, pour faire en sorte que ça rattrape le coût du recyclage, et que donc on n'ait plus à choisir en fonction du prix, mais que le choix soit fait entre, je simplifie, mais entre recyclage et décharge, ben, qui soit fait en fonction d'autres critères. Donc le principe, c'est artificiellement de gonfler le prix du traitement, de l'eau, des fumées, des déchets, pour que le choix, le prix, ne soit plus un critère de choix. Et puis on s'est dit quand même, bon, c'est bien, mais en fait, s'il y a ces fumées, s'il y a cette eau, etc., c'est bien parce qu'on a fabriqué à un moment donné, ou qu'on a consommé. Donc on est passé à une deuxième phase, et ça c'est plutôt les années 90, qui était la partie éco-conception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fabrique un produit qui va avoir moins d'impact sur l'environnement tout au long de la chaîne, c'est-à-dire depuis la conception jusqu'à la fin de vie, ce qu'on appelle du berceau à la tombe. Je fabrique souvent ces chaises-là, j'utilise donc du plastique, j'utilise du tissu. Je regarde tous les impacts depuis le berceau jusqu'à la tombe. Je dis, ah ben tiens, j'ai beaucoup d'impact sur l'eau, sur les déchets. Sur les déchets, je m'aperçois que c'est un problème de découpage. Eh bien, je modifie ma machine à découper pour faire en sorte que j'ai moins de chute de déchets, par exemple. Ou je vais acheter une machine outil qui va consommer moins d'eau. Ou qui, j'utilise de la colle avec des solvants. Ben, je vais utiliser la colle sans solvant. J'utilise la peinture avec des solvants, eh bien, je vais utiliser une peinture à l'eau, etc. Donc c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 80, mais qui s'est vraiment qui a commencé à vraiment s'ancrer dans les années 90, et aujourd'hui, vous avez des tas d'entreprises qui font de l'éco-conception. Par exemple, vous avez tous entendu que maintenant, les voitures, les voitures neuves, depuis quelques années, peuvent se démonter sans problème. Parce qu'on a pensé à la fin de vie. Et autrefois, les vieilles voitures, par exemple, derrière un train, dans son tableau de bord, elle avait à peu près une vingtaine de plastiques différents. Et c'était impossible de les séparer, parce qu'ils étaient collés, parce qu'ils étaient plus ou moins soudés entre eux. Et ces plastiques-là devaient suivre des filières différentes, parce qu'ils ne pouvaient pas traiter de la même façon, mais on ne pouvait pas. Donc, par exemple, maintenant, quand on conçoit une voiture, on pense aussi à son démantèlement, et si on utilise d'abord moins de sens de plastique. Et si on les a, ben, c'est fixé, et du coup, lorsqu'on va faire du démontage, ça va être plus rapide. Voilà. Un exemple très concret et très simple. Et puis en fait, depuis relativement peu de temps, on s'est dit, mais au fond, c'est bien, mais en fait, le point principal, il est là, c'est l'achat. Donc suivant la façon dont on va acheter, l'industriel va prendre. Et voilà. La conférence de ce soir en fait partie. Maintenant, on fait un travail sur les achats, après avoir fait un travail sur l'éco-conception, parce que avant, les gens qui fabriquaient disaient mais moi je veux bien faire des produits moins générateurs de nuisance, il n'y a personne pour les acheter. Les acheteurs ils disaient mais moi je veux bien les acheter, mais il n'y a personne qui les met sur le marché. Donc on a fallu jouer un peu au carburateur pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, le cercle est un peu rentré, Et il y a un gros travail sur l'achat. Alors on a commencé par l'achat de la puissance publique, collectivité et État, parce que c'est à peu près 15% du PIB, la commande publique. Donc il y a eu un gros travail dans l'office de Bordeaux qui est présent, qui fait partie parce que maintenant toutes les collectivités mettent dans leurs clauses des charges, les clauses environnementales dans les clauses sociales. On arrive à l'achat privé, hein, les entreprises privées également qui a commencé à démarrer. Et puis il y a aussi l'achat grand public. Voilà, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Alors pour vous dire, par exemple, on a fait un travail au niveau européen, et un Européen moyen, lorsqu'il consomme, en fait, il produit à peu près 580 kg de déchets. Ça, c'est sa production à lui, hein, c'est ce qu'il jette. Alors vous voyez que l'essentiel, en fait, vient des emballages. Les emballages, plus si vous y rajoutez ici les papiers jaunes magazines, on est à presque 40%. Il y a tout ce qui est fruits, légumes, sucre, c'est vous dire si on jette à la fois beaucoup de fruits et de légumes variés, et puis les chaussures qui pèsent assez fortement. Voilà. Et il faut savoir que ces 580, ben, on peut multiplier par 3 pour les déchets générés en amont de cette production. Autre, si on revient sur du franco-français, sur les ordures ménagères, ben voilà, en 40 ans, donc de 60 à 2004, on a constitué cette production d'ordures ménagères. Et jusque dans le début des années 2000, on avait la production de déchets qui était à peu près parallèle à l'augmentation du produit intérieur net. Depuis le début des années 2000, il semblerait qu'il y ait une déconnexion. Il semblerait, parce que ce sont des mesures extrêmement précises les unes des autres, mais la tendance a l'air de se confirmer au fil du temps, donc il semblerait qu'on soit arrivé, parce qu'avant, on ne pouvait pas se sortir de l'idée que consommer, c'était jeter. Voilà. Si on ne jetait pas, on ne consommait pas. Aujourd'hui, on arrive à faire comprendre qu'on peut consommer en jetant. Alors voilà, c'est les chiffres qui, si vous avez envie de prendre l'argent ici, l'occasion de les exprimer. Donc il faut savoir, en 1990, au niveau mondial, on rejetait à peu près 6 milliards de tonnes de carbone, sachant que la nature, elle n'en absorbe que 3. Voilà. Donc il y en a 3 qui participent très directement à l'effet de serre, en tout cas à l'augmentation de l'effet de serre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en en fait, il faut diviser par 2 les émissions mondiales. Et au niveau des pays développés, c'est encore plus, c'est par 4 pour la France. Donc c'est entendu ce terme facteur 4. En fait, c'est divisé par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Ça veut dire qu'il faut qu'en moyenne, au niveau de planétaire, chaque individu émette 1,7 tonnes de CO2. Donc je l'ai dit, c'est 25% des émissions d'un Français, mais c'est 10% des émissions d'un Américain. En revanche, c'est 1,5 fois celle d'un Indien, 4 fois celle d'un Nigérian, ce qui ne les empêche pas de gagner au football face à l'équipe de France, hein, mais ils ont un peu de retard. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un aller-retour par New York. Si vous avez l'intention d'aller en vacances à New York en avion, imaginez-vous, quand vous allez revenir, vous allez dire, ben voilà, en 2050, j'aurai épuisé mon crédit gaz à effet de serre. Ou c'est la fabrication d'un micro-ordinateur à écran plat. Vous voyez que ça va assez vite. Donc on est vraiment dans un changement complet de société. Alors cela étant, ça ne veut pas dire revenir au Moyen-Âge. Juste savoir que cette division par 4, ça nous ferait revenir à peu près aux émissions des années 60-70. Pour ceux qui étaient là à cette époque-là, on ne peut pas dire que c'était vraiment le Moyen-Âge. Pour les plus jeunes, si, je suis d'accord. Mais pour les autres, pas vraiment. Alors, comment on peut essayer d'intégrer le facteur environnemental dans l'achat? Il y en a un peu de ça, c'est de se dire, ben, il suffit que le prix ou le coût intègre les impacts environnementaux. C'est relativement simple. Et c'est ce que les économistes appellent l'intermédiation des externalités. C'est-à-dire qu'effectivement, on intègre dans le prix de l'objet ou d'un service ses impacts sur l'environnement. Alors en fait, c'est très simple pour la partie aval, si vous voulez, le coût de la gestion des déchets, etc. On va y revenir. En revanche, pour l'instant, on n'a pas attribué de prix au paysage, on n'a pas attribué de prix à la biodiversité, pour citer que ces éléments-là. Il y a des travaux qui sont en cours, etc. Il y a beaucoup de travaux de recherche sur ce sujet-là. Mais en fait, il y a des éléments dont on n'a pas pu encore définir la valeur. Et après, une fois qu'on a défini la valeur, il va falloir attribuer à un objet, cette chaise, ce micro-ordinateur, sa dépense en termes d'affaires. Donc on est totalement au démarrage. Cela étant, on a commencé à faire quelque chose, essentiellement sur l'aval, c'est ce que vous disiez. Par exemple, le fait de mettre des normes de rejet, de libération d'eau ou de fumée ou de traitement de déchets très élevés, on augmente le coût de traitement de cette eau, de ces fumées ou de ces déchets, et de fait, ça se retrouve dans le prix. C'est évident. Si l'entreprise doit épurer ses fumées, son eau, et doit bien gérer ses déchets, elle va forcément le répercuter dans son coût de production. Donc ça, c'est le coût du coût. Après, on a fait d'autres choses. Ce sont des contributions volontaires pour financer l'élimination des déchets. La première qui a existé en France, c'est sur les emballages. C'est le petit point vert avec une double flèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'industriel, par exemple, qui est fiscaliste en l'occurrence pour celle-là, contribue à l'emballage en l'occurrence. Et cette contribution sert à financer en totalité ou en partie la gestion des déchets de ces produits-là. Donc vous arrivez sur les emballages ménagers, pas sur les emballages ménagers. Les huiles, lorsque vous achetez de l'huile, votre garage, si vous faites le plein dans les huiles neuves, nous payons une écotaxe, ça s'appelle écotaxe. Sur les équipements électriques, alors, pour ceux qui ont acheté des ordinateurs, des réfrigérateurs, des téléviseurs, souvent les industriels mettent écotaxe. Voilà. Ça sert à financer les déchets de ces équipements électriques et électroniques sur les pneus, sur les imprimés non sollicités, tous les gratuits avec de la pub depuis 2007, maintenant, paient une taxe, donc une grosse partie est reversée aux collectivités pour le traitement de ces papiers sur les véhicules, etc. Et puis vous en avez une autre qui, elle, n'est pas liée spécifiquement à un produit mais à des installations. C'est ce que vous expliquez, la taxe sur les installations de traitement de déchets, qui fait partie de la taxe générale sur les activités polluantes, peu importe, ou même la redevance d'assainissement, c'est-à-dire qu'on augmente artificiellement le prix du traitement de l'eau ou des déchets pour que ça soit répercuté dans le prix de vente et pour que le choix de la solution finale ne soit pas uniquement économique. Et puis il y a quelques cas d'intégration de cours d'amont, mais sans calcul préalable. Vous avez une taxe sur l'extraction des granulats. Les entreprises qui font de l'extraction de granulats paient une taxe à l'État. Sur les produits des civières, quand nous achetons des civières, nous payons en partie une taxe qui est également reversée à l'État. Sur les imprimés, les avions, tous les décollages d'avions en fonction de l'heure de décollage, en fonction de l'importance de l'avion, paient une taxe également pour renchérir le prix du billet d'avion. Et puis c'est le principe de la taxe carbone, future, pas future, peut-être 2010 ou pas, pour renchérir justement les produits consommateurs de carbone qui restent sur les grandes généralités. Alors, avant de revenir à des choses concrètes, il faut juste savoir que tout ce domaine de la consommation qui est très étudié à travers le monde, est également un domaine où on développe forcément des théories, et notamment sur le comportement. Et certaines sont très en lien avec la consommation et l'environnement. Alors, il y en a une, la première, et le monde, développement durable ou soutenable, souvent on va y faire la production en anglais d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est apparu en 1987 avec la formule de Flandre, ça a été adopté par la convention de Rio en 1992, et donc c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. avec deux éléments quand même qui sont très importants. C'est le concept de besoin, notamment des plus démunis. Ça veut dire que, en clair, il va falloir revoir notre développement, mais il y en a qui ont besoin quand même de se développer. Hein, ça sous-entend qu'il y en a qui vont devoir faire plus d'efforts que d'autres. Et puis, la limitation des techniques. Et là, on est beaucoup sur la rareté des ressources. Les techniques sont très consommatrices de ressources. Par ailleurs, les ressources sont rares, donc il faut faire attention à ça. Ça, c'est un concept, alors je veux dire, dont tout le monde a entendu parler, qui n'est pas forcément connu dans tout le monde, mais on est dans un concept de développement. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est qu'on continue l'évolution de la société telle qu'elle est, mais il faut qu'elle ait moins d'impact sur la ressource et sur l'environnement. Et en fait, elle s'oppose à une autre théorie, qui en fait est apparue avant, historiquement, qui est la théorie de la décroissance, qui a été développée par un mathématicien américano-roumain. Et les grands principes de la décroissance, c'est un de se dire que ça n'est envisageable dans une société de décroissance. On est vraiment dans une proposition. Hein. Développement durable, c'est je continue le développement, mais je fais attention à ce qui se passe autour pour simplifier. Et là, non, il faut une société de décroissance. Donc, il faut diminuer notre consommation. Il faut réduire les charges qui n'apportent pas de satisfaction. Donc, les déplacements, la publicité, l'obsolescence accélérée. Il faut savoir, par exemple, que vous avez certaines chaussettes qui sont vendues en surface active, qui sont étudiées pour tenir statistiquement 10 lavages. C'est vrai. Les industriels qui fabriquent ça, qui travaillent sur la machine, ils font en sorte que ça tienne statistiquement 10 lavages. De toute façon, à ce que vous 10 lavages soient percés et doublés, et quand on achète l'autre. Voilà. Typiquement, un exemple de l'obsolescence accélérée un peu particulière, mais tellement révélatrice. Il faut sortir de la domination de l'économie. On est dans une société où il n'y a que l'économie qui tourne. On le voit bien avec la crise. C'est une crise et on espère que l'économie va repartir. Hein. Consacrer une valeur marchande à l'immatériel. Il n'y a pas de valeur marchande sur les aspects immatériels, sur la bonne relation de voisinage, par exemple, sur même la bonne relation au travail, si les gens sont bien, et bien du coup, la société s'en porte mieux. Finalement, économiquement, on pourrait le chiffrer, il y a des travaux aussi là-dessus. Et puis passer, j'y reviendrai, de l'avoir, qui est typique de la société de consommation, à l'être et à la même. Autre théorie, on reverra ça après de façon plus concrète, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est donner une valeur d'usage qui est la plus élevée possible, pendant le plus longtemps possible, pour consommer le moins de matières premières possible et d'énergie possible. Concrètement, c'est en gros la location ou l'utilisation collective. Alors on connaît, hein, la location de voiture, c'est de l'économie de la fonctionnalité. L'autopartage, je reviendrai, c'est-à-dire c'est une forme de location de voiture, c'est l'économie de la fonctionnalité. Le vélo libre service, que nous connaissons tous, voilà. La location d'outils, le lavomatique, c'est complètement passé par les mœurs, mais au lieu d'avoir chacun une machine à laver, on partage. Et de plus en plus dans le milieu professionnel, c'est la location, on augmente, etc. L'intérêt, il est sur la durée, parce que comme c'est une location, le bailleur a intérêt à ce que le produit dure le plus possible, donc il va y faire un entretien bien meilleur que le propriétaire isolé. Il va y avoir plusieurs usages, c'est-à-dire que les entreprises disent moi je veux changer de photocopieur, le photocopieur est encore en bon état, il peut le louer à une autre entreprise. La gestion de fin de vie, c'est-à-dire comme c'est le bailleur qui va payer le traitement du déchet du photocopieur ou de la voiture, il va donc s'arranger pour que ça soit fait le plus possible. Et puis il y a un élément en fonction de l'usage, typiquement c'est le vélo libre-service, l'autopartage, c'est la même chose finalement. Eh bien, j'ai besoin d'une auto pendant 2 heures dans la semaine pour aller faire des courses ou aller voir la pétardière. Eh bien, je fais 2 heures. Je ne la mets pas tous les mois, tout le temps, en permanence. Et de fait, il y a moins de limité. fabriquer, puisque finalement, un vélo va servir à 5 personnes, 10 personnes, le lavomatique va servir à 40, 50 personnes. Donc on a 5 machines à laver, on va en avoir 5. Alors, un exemple assez connu, hein, c'est Ivan Illich, qui, entre autres, je l'ai appelé penseur autrichien, qui a fait pas mal de choses. Il a calculé dans les années 70 qu'un Américain consacrait 1600 heures par an à sa voiture. 1600 heures pour les payer, hein, je paie mon crédit, donc je travaille pour payer mon crédit, payer le carburant, payer l'entretien et louer. Pas du temps quand même, mais on est bon. Eh bien, en fait, à 10 000 km par an, on va écouler à 6 km. C'est-à-dire à peu près ce qu'on fait en vélo. Alors c'était en 70, mais bon, nous on fait régulièrement des choses de ce type-là, et en fait les chiffres aujourd'hui n'ont pas énormément évolué. Et donc ça pose la question quand même de l'utilité d'avoir en permanence une voiture. Enfin, le dernier point, c'est la théorie de l'engagement. Alors ça, c'est un concept qui a été développé dans les années 60 par un psychologue américain. Le principe, c'est de dire que seuls les actes nous engagent. C'est-à-dire, je peux vous dire, moi tous les jours, je prends mon vélo. Bon, je vous le dis, mais finalement, vous n'êtes pas obligé de vous croire. Et sauf parce que je vous filme, donc ça se fait, et je vous montre tous les jours. Voilà. Par contre, si j'arrive en vélo, je montre que, effectivement, et si tous les matins j'arrive au bureau en vélo, je montre qu'effectivement, voilà, je suis engagé. Alors ça a donné naissance à des techniques commerciales assez contestables, hein, je peux vous dire. C'est la technique dite soumission librement consentie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, je vous attire pour une publicité pour un téléphone qui ne va pas coûter très cher, etc. Mais finalement, vous venez me voir. En fait, ma publicité, c'était surtout pour les adolescents, les machins, etc. Ou pour autre chose. Donc, je vous présente plusieurs modèles, vous êtes vachement bien et tout. Et puis, finalement, vous laissez baratiner, vous prenez le modèle de gaz. Et puis, au bout d'un mois, vous avez trouvé que sur les 87 fonctions que vous avez, vous en utilisez 3. Mais, comme vous l'avez déjà montré à votre famille, à vos voisins, à vos collègues de bureau, ben, vous n'allez pas repartir un mois après pour dire finalement non, je vais prendre le modèle minimum. Voilà. On ne vous a pas obligé à acheter celui-là, mais on vous a baratiné de telle façon que vous achetez celui-là. Ou alors on va vous dire, ben, justement, attention, on fait des objets à prix sacrifié, je ne sais pas, des tennis. Voilà, il y a 500 paires de tennis à 10 euros, vous arrivez à en plus, peut-être jamais eu d'ailleurs, il y a un bon, mais c'est pas grave, on est à 80 ou à 150 euros. Voilà. On vous a fait venir. Alors, cela étant, ça peut être intéressant, c'est utilisé dans le domaine de l'environnement pour entraîner les autres et pour pousser un peu l'effectivité à l'acte. Alors, concrètement, c'est quoi? Ben voilà, le défi pour la Terre, c'est de l'eau et de la mer. Ben, on s'engage, donc on peut aller s'engager dans le... Ici, voilà, j'ai cherché, donc on va mettre son nom, son adresse, etc. On va s'engager, on va le faire. On est tous engagés, donc aujourd'hui, voilà, nos engagements, ce que ça génère aussi pour moi. Et puis on a des leaders aussi, qui eux aussi vont s'engager et vont servir à entrer. Là, on est dans quelque chose qui est positif, hein. Autre type d'engagement qui s'est passé dans la Méditerranée, c'est une association qui s'appelle Éco-Geste Méditerranée. Donc là aussi, vous avez un site internet, vous pouvez vous engager. Et puis bien sûr, sur ce site-là, par exemple, vous avez la liste de tous les gens qui se sont engagés, leur adresse et tout. Ici, c'est une affiche pour les ports, les entreprises, les collectivités qui se sont également engagées. Là, c'est pour les bateaux. Vous avez des difficultés, sachant quand même que cette association-là a fait une opération un petit peu limite sur la propreté des plages à Marseille, à savoir qu'elle allait voir les gens en disant vous ne trouvez pas que la plage est sale, ben ouais, la plage est sale, là, et vous, vous faites froid, machin, voilà, forcément les gens, oui, je ne suis pas dans le goût, je ne suis pas dans le machin, c'est ça. Et avant, je peux prendre votre nom, ouais, je prends mon nom, machin. Et le lendemain, vous avez placardé un truc avec M. Dubois, Mme Durand, s'est engagée à rajouter comme ça. Bon, donc on est cette théorie-là qui est expliquée, là, voilà, on est quand même un peu limite, mais en l'occurrence, ils font des choses par ailleurs du sel. Alors ensuite, pour terminer dans les 6 minutes qui restent, c'est comment agir soi-même, parce que c'était bien d'éviter un virus qui commence le discours, mais enfin, individuellement, quand je vais demain repartir à un supermarché, comment je vais faire? Et donc il faut devenir consommateur, hein, ça veut dire. Et puis évidemment, j'ai pris deux citations, alors bien sûr, les auteurs sont complètement illégaux, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai trouvé que la phrase de Jacques Sidella, quoi qu'il ait pu le dire après pour dire qu'on n'avait pas compris, etc., est tout à fait, enfin, mais c'est pas grave, c'est tout à fait typique de la société, c'est vraiment l'amour. Il faut que je montre, chaque nouvelle bagnole que je fais, j'ai réussi, il faut que j'achète une Rolex pour montrer que j'ai réussi, et puis revenir à un auteur plus profond et à l'être. Savoir que l'essentiel est invisible pour les vies. Alors concrètement, au-delà de tout ça, il faut savoir qu'il y a une schizophrénie assez complète des consommateurs. On l'a vu tout à l'heure, on est bien certainement à trouver que quand on arrivait du supermarché, il y avait vachement d'emballage, mais 2 heures avant, quand on poussait le canapé au milieu des autres, on n'a pas forcément pensé aux déchets. Il y a plein de gens qui pètent quand ils sont dans un embouteillage tous les matins et quand ils sont dans un embouteillage tous les soirs, ils sont tout seuls dans leur bagnole le matin et le soir. Il y en a plusieurs milliers comme ça, et bon, ça ne semble pas leur poser de problème. Pareil, autre phénomène, c'est ce qu'on appelle le NIMBY dans le jargon, qui est donc pas dans le jardin, si on fait la traduction anglaise. C'est en fait le refus d'une installation, par exemple, de traitement de déchets, d'une éolienne, d'une ligne à grande vitesse, d'une autoroute, d'une boîte de nuit, d'une prison, etc., à côté de chez soi. Mais cela étant, on va quand même continuer, au lieu que ça soit ailleurs, on va continuer à produire des déchets qui vont alimenter l'installation de traitement. On va vouloir aller de Bordeaux à Paris plus vite qu'aujourd'hui, donc on va augmenter la ligne TGV. On va vouloir avoir donc les éoliennes, etc. Donc on ne veut pas l'installation, mais par contre on continue en gros à alimenter l'installation. Et puis dernier point, c'est par exemple, sur un autre aspect, on s'inquiète beaucoup de la sécurité des enfants en abordant des écoles primaires, maternelles, en plus, au collège. Mais il y a plein de gens qui accompagnent leurs enfants en voiture. Et quelquefois, en ayant des comportements complètement incivils, c'est-à-dire que je regarde les comportements, je vais trop vite, je vais repartir, etc. Donc d'un côté, on a peur pour ses enfants, mais on va être dangereux pour les enfants, ou pour les siens. Donc il faut savoir qu'on est en permanence dans cette schizophrénie pour 95% des gens. Donc il faut consommer différemment. Consommer différemment, ça veut dire aussi aller à l'encontre de 4 moteurs assez puissants de la consommation moderne. Le premier, on l'a déjà cité, c'est la primauté de l'avoir sur l'être, du matériel sur le matériel. Il faut que je montre, que je consomme, que j'ai une grosse maison, que j'ai une grosse voiture, que j'ai une Rolex, etc. Pour dire que j'ai réussi dans la vie. C'est réussir dans la vie, d'un point de vue économique, c'est avoir de l'argent. Après, on est heureux, pas heureux, ça veut dire tout ça. C'est pas le chiffre. Hein, comment est-ce qu'il coûte d'être heureux? Voilà. Le deuxième point qui est important, c'est l'égoïsme. Alors là, j'aurais pu l'illustrer par plein de sous-titres publicitaires. Le meilleur, c'est celui de L'Oréal, parce que je le veux bien. On pense à soi. Et donc, lorsque nous, on dit aux gens, mais vous savez, chaque fois que vous prenez votre voiture, vous émettez des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, alors, ils n'ont pas d'impact immédiatement, là, localement, mais ils vont avoir un impact pour tout le monde. Ouais, bon. Alors quand l'impact est immédiat, on le voit bien par exemple avec tout ce qui est poussière, etc., ou là on a une pollution locale, là les gens comprennent assez vite le problème. Alors je vais citer un exemple vécu, je vais dans une clinique, c'est dans le nord de la France, donc personne n'est concerné ici, dans une clinique, je m'occupais de déchets hospitaliers, et puis je vois qu'avant ils brûlaient, comme ça se faisait dans une clinique à l'époque, dans une espèce de cuisinière, on appelait ça comme ça, n'importe quel déchet, dont il y avait beaucoup de plastique et de PVC à l'époque. Voilà, ils brûlaient, et miracle, cette vignette-là ne brûlait plus, elle avait fermé. J'ai demandé au directeur pourquoi, et en fait, c'est parce qu'il y avait un réservoir sous les fumées de l'incinérateur. Comme les fumées étaient très acides, ça piquait la carrosserie de Saint-Jean-Loire, et du coup, il a arrêté le cylindre. Donc là, on peut faire comprendre à la personne, de façon très physique, le problème de la pollution. Mais quand c'est plus global, c'est plus vite. L'autre chose, c'est l'immédiateté. On veut les choses immédiatement. Le symbole, c'est la redoute, 24 heures chrono. Ça peut générer des transports très polluants, on s'en fiche. Et évidemment, quand nous, on dit aux gens, et quand je vous dis ce soir, vous savez, il faut aujourd'hui réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Parce que dans 2100, on va être vraiment dans la merde. 2100, bon, je ne sais plus là, bon, d'accord, il y a des enfants, des petits-enfants, mais enfin, c'est le moins. Donc c'est très difficile de donner cette notion de temps aux gens, et ce qui est logique aussi. Hein. Et en plus, la société actuelle accélère cet effet. Et puis, dernier point, c'est l'hédonisme, le plaisir. Et là, je fais ce que je demande aux autres de faire, c'est-à-dire que je n'ai pas un petit truc. C'est donc le plaisir. Là, c'était pas très connu, j'ai fait exprès, c'est l'Amérique, une société locale, voilà, dédiée au plaisir. Et quand on dit aux gens, bon, ben, c'est quand même mieux de passer 30 minutes dans les transports en commun plutôt que 10 minutes dans votre voiture, les gens, ils disent, ouais, mais attendez, moi, deux fois par minute dans la journée, j'en fais des tas de choses. Ou leur dire, n'arrosez pas pour certains pendant l'été parce qu'il y a des problèmes d'eau. Il y a des gens, ils n'ont pas envie d'avoir des hommes, d'avoir leurs fleurs ramassées. Donc il faut aller contre cette notion de plaisir et de limite. Alors, quelques conseils. Ben, il faut d'abord distinguer ses besoins et ses désirs. Par exemple, est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer de téléphone tous les 6 mois ou tous les ans? Pas vraiment, en fait. On s'aperçoit que le plaisir de se l'acheter, c'est pour 4 ans, 5 ans, autre point, il faut sortir de ses habitudes. C'est vrai, je reprends les transports parce que ça, c'est terrible. Les gens, on dit, faites du covoiturage, les gens me disent, ah, mais ce n'est pas possible parce que le mercredi, je vais chercher la petite au vidéo. Bon, allez, d'accord, vous ne faites pas le mercredi. Mais si déjà, vous le faites le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, alors on a gagné vachement quelque chose. Et en fait, il faut sortir de ces habitudes, d'un certain nombre de facilités, et on se rend compte que finalement, petit à petit, on s'aperçoit que c'est aussi bien. Mieux globalement, quelquefois qu'ils sont profondés. Et après, on peut changer, c'est-à-dire que les anciennes mauvaises habitudes, petit à petit, doivent se caler. On va dire, attends, finalement, je ne vais pas venir te chercher le judo, on va s'arranger autrement. S'attacher plus à la fonction qu'à la possession. Par exemple, de la voiture, on a des voitures, on les utilise finalement relativement peu, on les paie tous les mois et plus. Et au fond, pas forcément besoin de la voiture tout le temps. Lorsqu'on utilise la voiture une fois par semaine, là, on a d'autres dispositifs que de l'acheter. Acheter pour durer, je vais citer les chaussettes, mais ceux qui ont acheté des électroménagers il y a 20 ans savent que si on achète aujourd'hui, ça va durer moins longtemps. C'est fait exprès, c'est fait pour qu'on achète. Voilà. Bon. Donc il faut revenir à des objets qui durent plus longtemps, des chaussettes qui passent au-delà de 10 lavages. Et des machines à laver qui durent un petit peu 7 minutes. Savoir aussi, alors souvent les gens disent ah oui, mais moi je suis tout seul, j'ai pas de poids, et quand je suis au supermarché, bien sûr, si j'achète pas tel produit, si je suis tout seul à pas l'acheter, bon. Il faut savoir qu'on est 63 millions en France, on est 455 millions en Europe, et que ça a un poids, et notamment dans les pays du nord de l'Europe, le consumérisme a un poids énorme. Il faut savoir que tous les jours, dans les magasins, les grandes surfaces, en France, il y a des produits qui disparaissent. Pourquoi ces produits disparaissent? Parce que les gens ne les achètent pas. Voilà. Dans un mois ou deux mois, ça ne marche pas, c'est fini. Donc on a bien un poids. Alors on n'achète pas parce qu'il est cher, parce qu'il n'est pas bon, parce que j'en sais rien. Au fond, on ne peut pas l'acheter parce qu'il a un impact environnemental trop important. Et puis donc, lorsque j'achète, ben, je choisis des produits durables, des produits éco-conçus. La bonne quantité, j'ai cité, lorsqu'on achète des fruits et légumes une fois dans la semaine, avec des temps comme ça, au bout de 4 jours, on jette, la molaille nutritionniste connaît ça mieux que moi, on jette des fruits. Donc, pour les périssables, ben, achetons à la quantité qui va durer le temps que vous prenez. Voilà, ne pas acheter simplement en fonction du prix, mais aussi la durée, typiquement. les lampes basse consommation, elles sont plus chères à l'achat immédiat, mais sur la durée, on y gagne financièrement. En fait. Et puis, offrir la fête des mères ce dimanche, je rappelle que vous voyez, eh bien, on est obligé d'offrir des cadeaux avec des tas d'emballages, on peut offrir de la carrière, un billet de spectacle, par exemple. On peut aussi faire des échanges entre voisins, plutôt que chacun achète sa qualité, bah, peut-être sans céder. Alors on a, je ne vais pas trop commenter, mais voilà, on fait Noémie Garand, il y a deux ans, trois ans, une enquête régulière sur, sur la consommation. On voit entre 2006 et 2009 une évolution assez considérable, puisque avant, pour les Français, consommer responsable, c'est quoi? En 2006, c'était consommer mieux, puis ça diminue au profit du consommer moins. En réalité, les deux sont importants. Si consommer moins, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas besoin de consommer, on ne consomme pas. Mais il faut, quand on va consommer, il faut consommer mieux. Les deux sont importants. Voilà, alors, il y a des tas d'étiquettes, ce n'est pas l'objet de ma présentation de. Il y en a que quelques-uns que vous connaissez plus ou moins, juste pour vous dire par exemple, parce qu'on parle beaucoup des produits. Alors ici il y a un label officiel, une certification de part entière, qui est Espace Vert Écologique, qui est apparu en France il y a 2-3 ans. Donc aujourd'hui il y a 4-5 collectivités notamment qui sont labellisées. Pour l'instant, il n'y en a pas l'Aquitaine, mais il y a la ville de Bordeaux et la ville de Guérilla qui sont rentrés dans le processus là, enfin début d'année. Hein. Donc vous voyez, on peut s'engager pour avoir toujours des espaces verts, très sympathiques, mais qui sont moins impactants sur le plan environnement, on pense à l'eau, on pense à tous les produits de traitement. Et c'est très bien la ville de Bordeaux de dire. Moi, j'ai diminué ma consommation d'eau, j'ai diminué ma consommation de phytos. On les croit, mais bon, c'est sur leur bonne tête. Au début, ils ont une mauvaise tête, on ne les croirait pas. Et donc là, pour bien nous montrer que c'est vrai, eh bien, ils demandent à l'organisme tiers de venir vérifier les engagements régulièrement, voilà, et ça coûte 25 euros. Voilà, et puis, entre points, c'est celui-ci qui est, je pense, un des premiers en Europe. Parce que j'en ai pas vu d'autres. C'est un label officiel belge qui existe depuis 2002, tout produit, tout service, et qui a la particularité d'intégrer des critères sociaux. Voilà. Donc il y a certification par tierce partie, et on a intégré dedans des critères sociaux. Je vous avoue, enfin, je suis pas un hyper spécialiste de l'étiquetage, mais je n'ai pas trouvé d'autres traces ailleurs en Europe. En tout cas, peut-être aux États-Unis, je ne sais pas, mais en tout cas, les autres, vous les connaissez. Autre chose aussi, l'étiquetage dans les supermarchés évolue. Donc ceux qui vont dans les géants, dans les casinos, ont peut-être vu cette nouvelle étiquette sur les présentoirs, où on met l'impact carbone du produit et les aspects déchets et emballage. Ça devient aussi un critère de choix. Je regarde le prix. Ah, tiens, celui-là, il est moins de CO2, finalement, le prix n'est pas très différent. Ben, je vous prends celui qui a moins d'impact de CO2. Un autre, c'est le centre Leclerc, enfin, des centres Leclerc du nord de la France, on commence par Trollos, où à la fin, alors là, c'est pas produit par produit, mais. À la fin du ticket, on met la quantité de CO2 générée par les produits qui ont été achetés par la personne. Donc là, c'est collectif, hein, c'est une autre approche, mais on commence à mettre des éléments d'environnement dans les étiquettes. Et ça, alors c'est forcément compliqué, etc. Ici, il faut savoir lire, il faut faire des tas de choses, mais pour moi, c'est le début de l'internalisation des externalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une étiquette, et évidemment, demain, ce 551 grammes de CO2, l'idée, c'est que ça soit intégré dans le prix et que l'étiquette disparaisse, finalement. Et puis, alors, c'est moins connu, mais vous avez la Caisse d'Épargne qui a également étiqueté ses produits, vous voyez, sécurité, responsabilité, climat. C'est tous les produits, y compris la carte bleue, tous les placements financiers à laquelle d'épargne, sont étiquetés de cette façon. Voilà. Alors, juste là, quelques exemples pour vous dire que consommer différemment, c'est possible, ça existe. Donc, vous avez ici le site de covoiturage du Nord, donc j'ai pu mettre celui qui est sur propos, hein, aussi, ou ailleurs, c'est au niveau régional, c'est aussi pour montrer qu'il se fait d'autres choses que je montre. Alors, l'autopool, donc les voitures en libre service, hein, c'est-à-dire que vous avez un site, vous allez sur le site autopool, vous payez une cotisation tous les mois qui est de 10 euros. Et puis, quand vous avez besoin, tiens, demain après-midi, j'ai besoin d'une voiture de 14h à 18h, parce que je vais voir la tête à Rodriguez, vous réservez, et puis vous allez voir la tête à Rodriguez à Libourg, voilà, et puis vous revenez, vous allez payer en fonction du temps, en fonction des pages que vous avez fait. Et puis, pendant les 15 jours qui suivent, vous n'utilisez pas de voiture. Et vous ne ferez pas de voiture. Voilà la consommation des fruits et légumes de saison, évidemment, parce que consommer des fraises, des cerises qui arrivent au Brésil au mois de décembre, c'est un générateur de transport. Enfin, le lavomatique, dans les pays du Nord, de plus en plus, ça existait déjà, mais ça se redéveloppe, c'est-à-dire que dans les immeubles, on développe dans les cadres des immeubles, comme ça, des machines collectives, notamment la partie machine à laver, et de mémoire, il y a un projet sur Bordeaux Nord qui est dans cet esprit-là, si j'ai bonne mémoire. On peut aussi consommer des produits non pas emballés, mais en vrac et en fonction de l'utilisation. Si on n'a pas besoin d'un kilo de lentilles parce qu'on est une personne âgée ou tout seul, très considéré sur les routes occidentales. Mais c'était juste pour terminer sur le coup d'œil du monde. Mais malgré tout, enfin, il faut voir aussi que quelquefois, le fait de ne pas être riche, de ne pas être un pays riche, eh bien, même si le camion est hyper pollué en fait, c'est une horreur, si on ramène à la pollution par tête de pipe, ils sont bien moins générateurs de nuisances que nous. Voilà, j'ai dépassé les 5 minutes, je m'en suis désolé. Je vous conseille de regarder l'actualité de 4 sens. Et donc, d'ici une dizaine de mois, de venir à l'expo qu'on fait avec 4 sens sur justement la conscience. Voilà, merci de votre attention.
Moi, je remercie Jean-Pierre pour cette présentation. Alors, j'ai pu l'entendre beaucoup de temps lorsqu'on parle de la destination durable et responsable. Alors, les temps, on est un petit peu chez nous en observant ce qu'on représente ici.
Aujourd'hui, il n'y a aucun texte qui ce sens. Vous avez des textes, par exemple, sur les emballages, avec la limitation des bétons lourds. On met des bétons lourds dans les emballages pour diverses raisons. Et donc, vous avez des textes qui limitent la présence des bétons lourds dans ces emballages. Mais sur la fonctionnalité, non, il y a absolument rien.
Qui a une voiture aujourd'hui, qui
prêt à dire, ben non, je laisse la voiture et je vais utiliser des voitures de location de partage. Ce que je fais, c'est les jeunes. Moi, je vois beaucoup de jeunes urbains et plutôt ce qu'on appelle les CSP+, les femmes, etc., qui ont fait une voiture, parce qu'on dit, de toute façon, ce n'est pas nécessaire, et qui vont effectivement jouer des voitures. Puis quelquefois, on peut commencer, ou alors on a deux voitures. On peut se dire, bon, la deuxième, je peux la prendre. Mais même ça, vous voyez, c'est, on est sur du comportement, et c'est pas évident d'aller faire ça.
Et on voit Alors, il y a
Il y a le premier que vous soulevez, qui est le problème du critère de choix.
Ouais.
Et quand je vous montrais tout à l'heure la chaîne de la consommation depuis le comportement jusqu'à la fin de vie, je vous disais qu'à toutes les étapes, il y a des évolutions diverses et variées. L'éco-conception, ça consiste à vraiment à dire que je vais réduire les pollutions qui sont là, voilà. Je vais la supprimer. Voilà. Et quelquefois, quand on a commencé ces exercices-là, qu'on appelle des analyses de cycle de vie, on s'est dit, avec faire enfin, on va savoir s'il faut une bouteille en verre ou s'il faut une bouteille en plastique. Et bien, on ne sait pas. On ne sait pas s'il vaut mieux une bouteille en plastique en litre ou une bouteille en verre en litre. Parce qu'il y en a un qui a moins de consommation d'eau et l'autre qui a plus de consommation d'énergie, par exemple. Donc, alors il faut pondérer, on peut faire un exercice intellectuel pour pondérer la réduction de l'eau, de l'air, du sol et du machin, et à ce moment-là, on a une note globale, et celui qui a la meilleure note, on le prend. On ne sait pas faire le ici. Donc, vous soulevez, juste au titre, le problème de critères de choix, et aujourd'hui, il y a rarement des solutions qui sont toutes bonnes, et des solutions qui sont toutes mauvaises. Après, sur les lampes, il y a deux choses, il y a le problème, effectivement, des ondes, qui est quelque chose qui est relativement mal connu hein, en termes de santé, etc. On découvre un petit peu. Donc moi, j'en sais encore moins que le spécialiste. Donc il y a encore beaucoup de choses à voir. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça ou pas? Est-ce qu'il y a des difficultés, etc.
On n'a pas
décidé,
avant d'avoir la solution et d'avoir la certitude, le nombre de cycles, on n'a pas décidé d'arriver à la solution des enjeux de la France sans trop savoir quels étaient les incidents de ces lampes-là.
Je vais finir.
Alors, on peut passer directement
peut-être
au LED,
si on croit que
c'est un
coup
sur le LED.
Et puis, l'autre chose, c'est sur le mercure. Bon, le problème du mercure, qui est en réalité, c'est si la lampe casse, déjà, qu'elle casse pas, il n'y a pas de souci. Et cela étant, pour l'instant, on ne casse pas de lampe tous les jours, tout le temps, sous le nez. Mais. Oui, mais alors, c'est un effet négatif. Mais je veux dire, s'il y en a une dans toute sa vie, le problème de l'eau, c'est l'effet cumulatif. Mais effectivement, il y a des moments, il y a des choix qui sont faits où on n'a pas forcément tous les éléments, soit parce qu'on n'a pas les éléments de connaissance, hein, soit parce qu'il n'y avait pas forcément de choix alternatif à un moment donné. Peut-être qu'on va très vite passer au LED, je ne sais pas.
Vous
n'avez
pas l'impression justement que ce soit le même développement, c'est pas un peu plus logique, on décide quelque chose avant d'avoir la solution d'emplacement. Parce que là, on passe par un intermédiaire.
Oui, mais en quelquefois, on n'a pas moyen de faire autrement que de passer par des intermédiaires. Si on prend la première voiture qui est sortie, elle consommait énormément, elle n'allait pas vite, elle n'était pas confortable, elle n'était pas sûre. On est passé par des tas d'intermédiaires.
Pardon ?
Oui, mais il y a eu des améliorations, de toute façon. Et sans vouloir forcément. C'est pas l'amélioration de la sûreté du véhicule, etc. Enfin, on a fait des améliorations, mais la première voiture qui est sortie, elle ne pouvait pas être passée par des. Il a fallu passer par des égards. Alors, moi, je n'ai pas à dire si le son politique est bon ou pas. Effectivement, il y a des LED qui sont là. Peut-être que finalement, les LED, très vite, pour des raisons de sûreté, par exemple, vont effectivement remplacer les ampoules basse consommation. Quelquefois, on est obligé de passer par là. Moi, je dis souvent, pour vous convaincre qu'il faut acheter en pensant aux déchets, par exemple, ben, c'est plus facile aujourd'hui parce que vous triez vos déchets qu'il y a 20 ans quand vous ne les triez pas. Parce que aujourd'hui, quand on les trie, et vous avez remarqué, ma question, c'est la première, c'est qu'il trouve qu'il y a trop d'emballage dans la sortie de ses courses. Et vous savez qu'il y a trop d'emballage parce que vous les triez aujourd'hui. Il y a 20 ans, quand vous posez la question, vous seriez tous restés assis, à part quelques uberlus, mais ouais, non, de toute façon, on jette tout à la poubelle et la poubelle s'en va. Donc, quelquefois, il y a des étapes, soit technologiques, soit scientifiques, soit comportementales, qui sont nécessaires à 80% de la population, et à 20% qui sont très vite. Et comme dit Pierre Madal, on ne passe pas du rez-de-chaussée au premier étage sans un escalier. Voilà. Sauf qu'il y a là, qui monte une marche une par une, les autres 4 à 4. Il y en a qui prennent l'ascenseur aussi. Il faut savoir qu'il y a ça.
Vous avez